Bonjour, ici Marc, bienvenue au 16e épisode du bonheurpourtous.info. J'espère que vous allez très bien et que vous allez apprécier cette traduction du 16e chapitre du livre audio de Marshall Rosenberg, La communication non violente. Merci à Karine, pas la même Karine, que je remercie encore au passage, cette fois c'est @cricrine, qui a laissé un commentaire et 5 étoiles sur iTunes en disant que même si certains pourraient dire que le bonheur ne s'apprend pas, il lui semble que posséder les clés du coffre peut nous faciliter les choses. Et je suis bien d'accord. Je remercie aussi Alice qui m'a aidé par email à trouver une meilleure traduction au cas où aux US non-violent communication devienne connected communication. Je pensais à communication connectée, mais communication attentive transmet probablement mieux l'idée qu'on est intéressé par tout ce qui se passe dans la communication, aussi bien en nous-mêmes que chez les autres. Si vous avez une meilleure idée, j'apprécierais que vous m'en parliez. Merci donc à Karine et à Alice, et voici le 16e chapitre. Chapitre 16. La différence entre une demande et une exigence. Je voudrais parler maintenant de la différence entre les demandes et les exigences. Lorsqu'on fait des demandes, c'est très important que les autres les reçoivent comme des demandes et pas comme des exigences. Reçu comme une demande, c'est un cadeau parce que ça donne à la personne l'opportunité de faire ce que nous les humains adorons faire, contribuer au bien-être les uns des autres. Mais nous n'aimons pas entendre des exigences. Ça menace notre autonomie. Alors, quelle est la différence entre une demande et une exigence? Eh bien, de la façon dont j'utilise ce terme, une exigence, c'est quand une personne pense que si elle ne fait pas ce que l'autre demande, alors, d'une manière ou d'une autre, elle sera punie, rejetée, culpabilisée, humiliée. Lorsqu'on voit une demande comme une exigence, on a deux options, la soumission ou la rébellion. Et de toute façon, la personne qui fait la demande est perçue comme coercive, brutale, et notre capacité à répondre avec compassion est diminuée. Plus nous avons par le passé puni les autres, ou bien nous les avons accusés ou nous les avons fait culpabiliser lorsqu'ils n'ont pas répondu à nos demandes, plus le risque est grand qu'ils vont maintenant entendre nos demandes comme des exigences. Nous payons aussi le prix lorsque d'autres ont utilisé ces tactiques avec quelqu'un. Dans la mesure où les gens que nous côtoyons ont été accusés, punis ou poussés à culpabiliser pour n'avoir pas fait ce que d'autres ont demandé, ils sont susceptibles d'apporter ce passé à leur nouvelle relation et d'entendre une exigence dans toute demande. Voyons maintenant deux variantes d'une situation. Jacques dit à son amie Jeanne : « Je me sens seul et je voudrais que tu passes la soirée avec moi. Est-ce une demande ou bien une exigence ?» La réponse est qu'on ne sait pas tant qu'on n'a pas vu comment Jacques réagit envers Jeanne si elle refuse. Supposons qu'elle réponde. « Jacques, je suis vraiment fatigué. Si tu veux de la compagnie, pourquoi pas demander à quelqu'un d'autre de passer la soirée avec toi ?» Si Jacques remarque alors, « C'est bien toi ça d'être aussi égoïste. » Sa demande était en fait une exigence. Au lieu d'empathiser avec le besoin de repos de Jeanne, il lui fait un reproche pour sa réponse. Considérons un deuxième scénario pour la même situation. Jacques commence par dire « Je me sens seul et je voudrais que tu passes la soirée avec moi. » Jeanne répond « Jacques, je suis vraiment fatigué. Si tu veux de la compagnie, pourquoi pas demander à quelqu'un d'autre de passer la soirée avec toi ?» Jacques se détourne sans dire un mot. Jeanne, sentant qu'il est fâché, dit « Est-ce que quelque chose te dérange ?» Jacques « Non. » Jeanne « Allez, Jacques, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe ?» Jacques « Tu sais combien je me sens seul. Si tu m'aimais vraiment, tu passerais la soirée avec moi. » Une nouvelle fois, Jacques ne montre pas d'empathie pour Jeanne et ses besoins, et maintenant il interprète sa réponse comme un rejet et qu'elle ne l'aime pas. Plus on interprète les refus comme signe qu'on est rejeté, plus on augmente le risque que nos demandes soient entendues comme des exigences. Ceci conduit à une prophétie qui se réalise elle-même, car plus les gens entendent des exigences, moins ils prennent plaisir à répondre à nos demandes. À l'opposé, on saurait que la demande de Jacques était une véritable demande et pas une exigence, si sa réponse à Jeanne avait exprimé une reconnaissance respectueuse d'elle et de ses besoins. Il aurait dans ce cas pu lui dire « Alors tu te sens épuisée, Jeanne, et tu as besoin de repos ce soir. » Ensuite, une fois qu'il lui aurait communiqué cette empathie, s'il voulait essayer de trouver avec elle s'il y aurait un autre moyen pour satisfaire leurs besoins à tous les deux. Si elle avait reçu l'empathie en premier, il est probable qu'elle aurait été d'accord pour chercher une autre solution que de ne pas le voir ce soir-là. Nous pouvons aider les autres à avoir confiance que nous demandons et que nous n'exigeons pas, en indiquant que nous souhaitons uniquement que la personne accepte si elle peut le faire de son plein gré. On pourrait donc demander « Est-ce que tu serais d'accord pour mettre la table ?» au lieu de « Je voudrais que tu mettes la table. » Cependant, la façon la plus efficace de communiquer qu'on fait une véritable demande est de faire preuve d'empathie envers les gens lorsque, pour quelque raison que ce soit, ils ne souhaitent pas faire ce qu'on demande. On montre qu'on leur adresse une demande plutôt qu'une exigence par la façon dont on répond lorsque les gens refusent. Si nous sommes prêts à montrer une compréhension empathique de ce qui empêche quelqu'un de faire ce qu'on demande, alors par définition, nous avons exprimé une demande et pas une exigence. Choisir de demander au lieu d'exiger ne veut pas dire qu'on renonce lorsque quelqu'un dit non à notre demande. Cela veut dire qu'on ne cherche pas à les persuader tant qu'on n'a pas compris avec empathie ce qui empêche l'autre personne de répondre oui. Exprimer une demande véritable nécessite aussi d'être conscient de notre objectif. Si notre objectif est seulement de changer les gens et leur comportement et d'obtenir ce qu'on veut, alors la communication non violente n'est pas un outil approprié. La communication non violente est conçue pour ceux d'entre nous qui voudraient que les autres changent et répondent, uniquement lorsqu'ils peuvent le faire de leur plein gré et avec compassion. Le but de la communication non violente est d'établir une relation basée sur la sincérité et l'empathie. Lorsque les autres ont confiance dans le fait que notre objectif principal est la qualité de la relation, et que nous attendons de ce processus la satisfaction des besoins de tout le monde, alors ils peuvent être confiants que nos demandes sont de véritables demandes et pas des exigences camouflées. Il est difficile de rester conscient de cet objectif, surtout pour les parents, enseignants, cadres et autres personnes dont le travail consiste en grande partie à influencer les gens et obtenir des résultats. Au cours des phases initiales de l'apprentissage de ce processus, il peut arriver qu'on applique les éléments de la communication non violente de manière mécanique, sans être conscient de l'objectif profond. Et il est important d'être en permanence conscient que le but n'est pas d'obtenir ce qu'on veut, mais la qualité de relation qui rend possible de donner par compassion. Donner par compassion d'une sorte qui permette aux besoins de tous d'être satisfaits. Parfois, même quand nous sommes conscients de notre intention et que nous exprimons notre demande avec soin, les gens peuvent entendre une exigence, surtout si leur vie passée a été remplie d'exigences. Et ceci est particulièrement vrai lorsque nous occupons une position d'autorité et que nous nous adressons à ceux qui n'ont pas eu de bonnes expériences dans le passé avec les gens occupant des positions d'autorité. Une fois, l'administrateur d'un lycée m'avait invité à faire aux enseignants une démonstration de la façon dont la communication non violente pourrait être utile pour communiquer avec les élèves qui ne coopéraient pas comme les enseignants auraient voulu. On m'avait donc demandé de rencontrer 40 élèves qu'on jugeait socialement et émotionnellement mal ajustés. J'étais frappé par la façon dont ce genre d'étiquette provoque ce qu'elle dénote. Si vous étiez un élève qu'on avait étiqueté de la sorte, cela ne vous donnerait-il pas la permission de vous amuser à l'école, et ne seriez-vous pas tenté de résister à quoi qu'on puisse vous demander si vous saviez qu'on pense de vous que vous êtes socialement et émotionnellement mal ajusté? En étiquetant les gens de cette manière, on est porté à se comporter avec eux d'une façon qui contribue au comportement même qui est celui qui nous préoccupe, et ensuite nous utilisons ceci comme une confirmation de notre diagnostic. Puisque ces élèves savaient qu'ils avaient été classés de cette façon, je n'étais pas surpris lorsque j'arrivais de trouver la plupart d'entre eux penchés aux fenêtres en train de crier des insanités à leurs amis dans la cour. Je commençais par faire une demande. J'ai dû élever la voix pour me faire entendre et j'ai dit « Je voudrais que vous veniez tous vous asseoir pour que je puisse vous dire qui je suis et ce que je voudrais faire aujourd'hui. » À peu près la moitié des élèves vinrent s'asseoir. Je n'étais pas sûr qu'ils m'avaient tous entendu, alors j'ai renouvelé ma demande. Cette fois, tout le monde vint s'asseoir, sauf deux jeunes hommes qui restèrent penchés à la fenêtre. Malheureusement pour moi, ces deux-là étaient les plus grands de la classe. « Excusez-moi, leur dis-je. Est-ce qu'un de vous deux, messieurs, voudrait me dire ce que vous m'avez entendu dire ?» L'un des deux se tourna vers moi et dit « Ouais, vous avez dit qu'on devait venir s'asseoir. » Je me dis à moi-même « Oh oh, il a entendu ma demande comme une exigence. » À haute voix, je dis « Monsieur. » J'ai appris à toujours dire « Monsieur » aux gens avec des biceps comme les siens, surtout quand l'un d'eux a un tatouage. « Est-ce que vous seriez d'accord pour me dire comment j'aurais pu vous faire savoir ce que je voudrais sans que ça sonne comme si je cherchais à vous commander ?» Il dit « Hein ?» Vous voyez, il avait été conditionné à s'attendre à des exigences de la part des autorités. Il n'était pas habitué à mon approche différente de simplement faire une demande. Donc je lui dis « Comment est-ce que je peux vous dire ce que je voudrais sans que ça sonne comme si je ne m'intéresse pas à ce que vous voudriez ?» Il réfléchit un instant et dit « Je ne sais pas. » Je dis « Eh bien, ce qui se passe entre vous et moi en ce moment est un bon exemple de ce dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Je crois que les gens peuvent prendre beaucoup plus de plaisir au temps passé ensemble s'ils peuvent dire ce qu'ils souhaiteraient les uns des autres sans que ça soit entendu comme s'ils donnaient des ordres. Donc, quand je vous dis ce que je voudrais, je ne suis pas en train de dire que vous devez le faire et que si vous ne le faites pas, je vais essayer de vous rendre la vie désagréable. » Alors, comment est-ce que je peux vous dire ce que je veux, de manière à ce que vous puissiez avoir confiance que je fais simplement une demande ? À mon soulagement, ceci parut avoir du sens pour ce jeune homme, qui, avec son ami, rejoignit le groupe. Dans certaines situations comme celle-ci, il se peut qu'il faille du temps avant que la personne ait confiance que nos demandes sont des demandes et pas des exigences. Lorsqu'on fait une demande, il est utile également de chercher si on a à l'esprit des pensées comme celles qui suivent, qui transforment automatiquement les demandes en exigences. Par exemple, si nous avons un « devrait » en tête, « il devrait nettoyer une fois qu'il a fini », alors quoi que ce soit qu'on demande va probablement être entendu comme une exigence. Si nous pensons « elle est censée faire ce que je demande », là aussi ce sera probablement entendu comme une exigence. Si je dis « je mérite une augmentation », alors probablement ce que je demande sera une exigence. « Il est juste que je les fasse rester plus longtemps », sera probablement entendu comme une exigence. « J'ai le droit d'avoir plus de vacances », quoi que je demande sera probablement entendu comme une exigence. Lorsqu'on définit nos besoins de cette façon, on est amené à juger les autres lorsqu'ils ne font pas ce qu'on demande. À chaque fois qu'on a des mots comme « doit », « est censé », mérite, le droit, etc. On arrive à la fin de cet épisode du bonheurpourtous.info. Si vous voulez aider à faire connaître le podcast, laissez un commentaire sur iTunes s'il vous plaît, ça me fera aussi plaisir. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. Dans le prochain épisode, on continuera avec le 17e chapitre de la communication non violente. À bientôt.